Et bonsoir à tous.
Hey, you know what?
C'est du Talmud que nous allons parler cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance, du Talmud, en compagnie d'abord, pour les deux émissions à venir, d'Adin Steinsaltz, l'enseignant, le scientifique, le mystique et l'écrivain Steinsaltz, le Rashi des temps modernes à qui nous devons rien moins qu'une traduction exhaustive du Talmud en hébreu moderne, mais aussi, entre autres, une très utile introduction au Talmud, parue chez Albin Michel dans la collection des spiritualités vivantes. Les deux émissions que vous allez entendre donc ce soir et demain ont été enregistrées en mai dernier dans le studio 132 de la Maison de Radio France. La première question que j'ai envie de vous poser est une question que je me pose à moi-même depuis toujours et que je suis heureux de vous poser et qui tient en peu de mots et qui met peu de temps finalement à être posée et dont la réponse demande beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'être juif ?
Tout d'abord, c'est une question que posent les juifs. C'est une question aussi que posent les non-juifs.
Oui, mais ils n'ont pas la même réponse en général, non ?
Il y a trop de réponses à cette question. Pour ceux qui ne sont pas juifs, les juifs sont en fait le grand mystère. En fait, ce sont des gens qui vivent comme tous les autres. En dépit de tout ce qu'on raconte sur eux, ils n'ont pas de cornes. Ils n'ont pas de queue. C'est comme des êtres humains. Mais il y a un sentiment qu'ils sont différents. Ça fait partie de la définition du juif, même à partir de l'intérieur. Je suis désolé de raconter une histoire, mais je crois que c'est une histoire vraie et juste. Il y a des années, j'ai dû prendre un poste quelconque à l'université et je devais répondre à un questionnaire comme on le fait d'habitude. Et il y avait une question que l'on m'a posée pour la première fois de ma vie.
Êtes-vous juif ?
Non. Ma question c'était à quelle race appartiens-tu ? J'ai jamais pensé à ça. Je peux dire, bien sûr, selon mon aspect extérieur, que j'appartiens à la race blanche.
Mais
c'est circonstanciel. Mon peuple, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. Alors, si je ne suis pas blanc, ni noir, ni basané, ni jaune, alors que suis-je ? Et je cherche, et il y avait un petit cadre en bas, tout en bas, marqué « Autre ». Alors voilà, j'ai mis une petite croix là-bas, « Autre ». D'une certaine manière, c'est une bonne définition. Qu'est-ce que c'est qu'être un juif ? C'est être « Autre ».
Est-ce que cette altérité, elle est intime, ou est-ce qu'elle est l'effet du regard d'autrui, d'une construction, finalement ?
Ce que je dis, c'est qu'une part de cela, ça ne dépend pas du regard de l'autre, mais c'est le regard du juif lui-même. C'est une des choses qui, même s'ils ont perdu leur identité positive, au moins, ils restent avec cette identité d'autre. Il est clair que il y a quelque chose de réel, de vrai, là, qui pose et oppose le juif face au monde. Ça ne signifie pas qu'il lutte contre le monde entier, mais il sent qu'il est différent. C'est un sentiment extrêmement primaire. En dépit de cela, comment est-ce qu'un juif se ressent très profondément Et quand je dis profondément, ça veut dire parfois le juif le ressent, mais ne sait pas comment le nommer. C'est quelque chose qui est tellement fondamental, tellement intérieur. Parfois, un individu ressent quelque chose, mais n'arrive pas à l'exprimer.
Il en va de l'identité comme de la transcendance. En général, pour pouvoir assigner une identité à quelque chose, il faut pouvoir le regarder d'un ailleurs qui permette de le montrer du doigt et de dire « voilà ce qu'il est ». Est-ce que cette difficulté de nommer l'identité en question ne vient pas du fait qu'il n'y a pas de transcendance dans le judaïsme ?
Qu'il n'y ait pas de nom pour cela. Vous savez, beaucoup de choses dans le monde, nous ne pouvons les reconnaître ou les désigner que de façon négative et non pas de façon positive.
Il y a
un sens pour les choses qui sont trop profondes pour qu'on puisse les nommer positivement. Je peux les définir, par exemple, que de façon négative.
Alors, pardonnez-moi, je vous repose la question, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'un juif n'est pas ?
Il
n'est pas comme tout le monde.
Est-ce qu'il n'est pas un peu plus que tout le monde ? C'est ce que vous disiez vous-même un jour. Vous avez dit, les juifs sont comme tout le monde, mais un peu plus.
C'est ce que je pense toujours. Je pense que le juif est comme tout le monde.
À la différence des autres, le juif est comme tout le monde, en fait.
Il est plus intelligent, plus idiot, pire, meilleur, mais plus. Parce que d'une certaine manière, ça semble peut-être comme une déclaration raciste. Mais si vous voulez savoir ce qu'est l'exemple, ce qu'est un être humain, c'est ce que nous sommes, nous, les Juifs. Nous sommes des êtres humains avec nos propres problèmes, bien entendu. Mais en tant qu'êtres humains, ce n'est pas une définition. Mais ça nous place un petit peu, si vous voulez, sur la carte du monde. Mais intérieurement, c'est peut-être une définition qui semblerait être très théologique. Nous sommes les prêtres du monde. Notre identité interne, nous, en tant que peuple, en tant qu'identité, nous sommes une expérience théocentrique.
Est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on le devient ?
Certains naissent, certains se trouvent ou se découvrent juifs. Parce que dans un certain sens, je peux dire que il y a un certain type d'âmes individuelles qui sont à travers le monde, qui se promènent à travers le monde. Et quand quelqu'un se trouve, se découvre, et qu'il a un aspect tel ou tel, souvent il cherche à qui ou à quoi il appartient. Et donc, il découvre son appartenance avec un groupe de gens qui, dans leur existence, dans leur essence, sont des prêtres. Je veux expliquer parce que c'est important. C'est même important dans un pays comme la France.
Pourquoi dans un pays comme la France ?
Parce que c'est un pays tellement laïque, et même les juifs ici sont tellement laïques.
Oh, pas tous.
Je sais. Mais ce que je veux dire, Dans cette situation, que se passe-t-il lorsque quelqu'un naît en tant que prêtre? Il a une âme de prêtre. Sa vie globale, complète, ce serait d'être prêtre. Mais il a perdu son Dieu. Un individu tel que celui-là est comme de nombreux juifs. C'est un être tragique. C'est un être qui a une essence spécifique. Mais il n'a pas de voix pour l'exprimer, de chemin pour l'exprimer.
Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, à un philosophe, mettons un philosophe cartésien, qui reprendrait tous les termes du cartésianisme, le sujet, le sentiment du libre arbitre, le sentiment d'être l'origine de ses actes, l'idée que le sens de sa vie doit se trouver au-delà de lui-même, et qui pourtant conserverait donc toutes les structures théologiques héritées du cartésianisme et de ce qui le précède, et qui pourtant aurait oublié Dieu, laissé de côté la nature de Dieu au motif qu'elle est inconnaissable. Bref, quelqu'un qui ne garderait de Dieu que le souvenir des formes qu'il nous a léguées.
C'est justement le point. Si les Juifs, c'est ce qui fait partie du travail des Juifs contre le paganisme, contre l'idolatrie. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas accepter les formes. C'est une histoire qui remonte à l'époque d'Alexandre le Grand. Il y avait à son époque quelqu'un qui a composé un ouvrage de géographie. Il en est resté quelques extraits. Et il écrit: au sud du pays syrien, il y a un petit peuple. Tout ce peuple est composé de philosophes. C'était la façon dont ce grec avait entendu parler de quelque chose et il l'a décrit de cette manière-là. Un peuple composé de philosophes. Pour lui, c'était vraiment un état très élevé, supérieur, philosophe. Mais bon, c'était aussi un peuple qui ne s'attachait pas aux formes, à l'aspect extérieur des dieux, mais à l'essence. Voilà ce qui se passe avec un juif qui, d'un côté, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue traditionnel, biologique, est un prêtre, mais d'un point de vue intellectuel, il en est incapable. Il est donc dans une situation dans laquelle se trouve un homme qui a été castré. Il veut, il rêve, mais il ne peut pas. C'est exactement cela qu'on appelle un juif laïque.
C'est-à-dire condamné à une certaine forme de lucidité, dans la mesure où la lucidité passerait par le renoncement à ses rêves.
Exact.
Donc le juif laïque est lucide.
Très souvent. Bien sûr, il peut vendre des chiffons, évidemment. Disons que c'est un écrivain français. Il se trouve donc dans cette situation où un homme qui vit une sorte de tragédie. Il y a eu des gens qui, au cours de leur vie, des gens qui ressentent que quelque chose leur manque. Mais ils ne savent pas quoi. Et donc, ils cherchent à travers le monde. Jusqu'à ce qu'après des années, puisse trouver, grosso modo, à quoi, où il appartient.
Il
y a tas d'histoires à travers le monde, il y a des histoires... J'ai dit une fois qu'il y avait une histoire qui était véritablement une description exacte de ce qu'était un enfant juif. C'est une histoire de Andersen. Sur le vilain petit canard.
Qui porte en lui la difficulté d'être un cygne au milieu des canards.
Et il sent qu'il n'appartient pas, une non-appartenance. Il sent qu'il a quelque chose d'autre. Il sait que comme il est autre, il sent qu'il est moche, qu'il n'est pas bien. Il essaie d'être comme tous les frères de sa fratrie. Et il se peut qu'à la fin, il découvre qu'il est différent.
Mais alors, pardon, mais si je vous suis, est-ce que, en toute rigueur, hein, est-ce que l'essence du judaïsme, si on peut parler d'ailleurs d'essence du judaïsme, ne réside pas dans la diaspora, justement, c'est-à-dire la non-appartenance ?
Non, ça n'a rien à voir avec la diaspora, ça peut être partout. Si c'est la diaspora...
C'est
pas la diaspora, c'est l'exil.
Et l'exil est compatible avec le fait d'être, de rester au même endroit.
Mais l'exil, ça peut être partout. Ça peut être même à la maison. Et c'est un problème.
Si
je pose la question, quel est le problème de ce juif ? C'est ça le problème. Je voudrais simplement ajouter ce juif qui se trouve au sein, par exemple, de son travail, de sa position. Ça ne laisse pas en paix. Ça ne veut pas dire que, dorénavant, il sera heureux. En fin de compte, ce qui arrive à un homme qui trouve sa voie dans le monde juif, c'est que d'abord il avait des petites questions. Maintenant il a des grandes questions. Et plus il avance, plus les questions seront importantes. Et ça fait partie de notre foi également. Dieu, le Dieu que l'on peut connaître, Dieu sur lequel on peut répondre à certaines questions, le Dieu auquel on peut répondre, eh bien ce Dieu-là n'est pas une divinité.
Il y a un adage de Pascal, le philosophe Pascal, dont je sais que vous l'aimez beaucoup parce qu'il est catholique, c'est-à-dire universel, la phrase est de vous, un adage de Pascal qui dit « À la fin d'une vérité, il faut toujours se souvenir d'envisager la vérité opposée. » Dans l'introduction que vous proposez au Talmud, vous dites à un moment que le Talmud est peut-être le seul texte sacré de toute l'histoire de la culture qui autorise et même encourage sa propre remise en cause. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agirait d'abord et avant tout de penser contre soi-même ?
C'est tout d'abord penser. On ne peut pas penser sans poser de questions, sans questionner. Même dans ce livre, dans d'autres livres que j'ai écrits, sur le Talmud, à quel point le Talmud est plein de questionnements. J'ai donné quelques exemples. Par exemple, les Esquimaux ont 100 mots différents pour désigner la neige. Par exemple, chez les Arabes, il y a 100 mots différents pour désigner un chameau. Chez nous, il y a 40-50 mots pour dire question. Les Esquimaux vivent dans la neige. Les Arabes vivent avec des dromadaires ou du chameau. Nous vivons avec des questions. C'est la raison pour laquelle nous savons les différencier. Petite question, grande question, question ci, question ça. Et chaque question a son propre nom. Et nous vivons au sein de cela. Nous vivons, comme je l'ai dit, nous posons des questions, nous donnons des réponses, et nous posons de meilleures questions.
Emmanuel Levinas compare le Talmud, quand on lui demande de dire ce qu'est le Talmud, quelle est la première image qui lui vient à l'esprit quand il pense au Talmud, il dit le Talmud est comme une pièce pleine de bougies, dont les lumières ont la particularité d'éclairer une porte qui se trouve en face de celui qui vient d'entrer dans la pièce. Et donc, naturellement, l'individu se précipite vers cette porte qui est éclairée par ces bougies, il ouvre la porte, et ouvrant la porte, il entre dans une autre pièce où il y a davantage de bougies, dont les lumières éclairent encore plus fort la porte qui l'attend et qui de nouveau se trouve devant lui. À quoi Levinas conclut en disant que le Talmud, c'est ce lieu où la lumière gagnée éclaire d'abord sur l'insuffisance de la lumière acquise. Est-ce que vous reprendriez cette image à votre compte ?
C'est pas le but. Notre but n'est pas de savoir à quel point nous ne savons pas. Tout homme intelligent sait à quel point il ne sait rien.
Mais
le but du Talmud, c'est d'une certaine manière questionner, poser des questions de tout type. Et ce ne sont pas des questions d'ordre théologique.
Pourquoi est-ce le Talmud qui se soucie d'autres sujets que de la théologie, ou est-ce que ces autres questions, qui en apparence ne sont pas théologiques, en vérité relèvent d'un questionnement lui-même théologique ? En somme, y a-t-il une question qui ne soit pas théologique ? Y a-t-il un élément qui ne relève pas de Dieu, tout simplement ?
Eh bien, si je prends l'image d'un monde juif, eh bien, dans ce monde juif, tout appartient, tout fait partie dans le monde de la Torah. Tout fait partie d'un tout dans le monde de la Torah.
Donc,
chaque chose qui est au monde appartient à ce sujet. Donc, ce n'est pas de la théologie dans le sens exact du terme théologie.
Dans le sens occidental du terme, peut-être.
Exact, mais ça veut dire autre chose. C'est l'importance qu'il y a à toute chose. Eh bien, dans un certain sens, je veux savoir ce qu'est la vérité. Et c'est ma quête.
Talmud, que tout
eh bien, dans le Talmud, il est écrit, dans les passages du Talmud, le sceau du Saint béni soit-il, c'est Emet, ce qui signifie vérité. Et chaque endroit où il y a Emet, vérité, il est présent, c'est sa signature. Et donc, je le cherche. Est-ce que je peux le trouver dans son intégralité, dans sa totalité ? Apparemment, non. Parce que, de ce point de vue, ce que je peux connaître en totalité, en globalité, ce n'est pas quelque chose d'important, semble-t-il. Les choses importantes, pas des choses qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la haute théologie. Même des questions petites, des questions de la vie courante.
Pourquoi les chats perdent la mémoire ?
C'est une petite question, mais il y a une question, par exemple, voici une question qui prouve que je ne suis pas seulement raciste, mais aussi sexiste, mais je ne fais que citer. Le Talmud dit, par exemple, les hommes se disputent et après se réconcilient. Les femmes se disputent, mais restent fâchées. Donc c'est une question et on s'occupe de cette question et on lui répond que, par exemple, l'homme est créé à partir de la terre, Adama. Et donc il est plus doux, plus souple. Mais la femme a été créée à partir d'un os. Elle est plus dure. C'est une théorie qui n'est pas seulement la nôtre, mais
Gamba, Ktsat be mythologia.
On trouve aussi cette explication dans les mythologies du monde entier.
Odioter be mythologia chez la Mizrach.
Et beaucoup plus dans les mythologies de l'Est et de l'Orient lointain. Qu'il n'y a pas d'identité entre la femme et la pitié.
Que reste-t-il ? Vous avez parlé de la vérité, Emmet. Vous avez parlé de la vérité. Que reste-t-il de la vérité ? Et que signifie d'ailleurs le fait que la lettre Aleph puisse être effacée au début de vérité. Que signifie cette légende qui fonde le golem ?
C'est pour la golem, c'est pour y faire.
La légende du golem est une belle légende.
Il faut rappeler pour ceux qui l'ignorent en quoi elle consiste, si vous voulez, je vous laisse la raconter.
C'est pour y faire, c'est pour
une très belle légende pour les Français, pour les Belges, encore plus pour les Belges d'ailleurs que pour les Français.
Et même les non-juifs.
Hein. C'est ça que je veux parler.
Mais
au-delà de cette histoire, de cette légende, nous parlons d'une question de l'émet, de la vérité, à partir de l'alphabet juif. Mais tout ce qu'il y a dans l'alphabet juif, à partir de A, B, jusqu'à la fin. Et quand on efface le Aleph, la première lettre de l'alphabet,
ce n'est
pas une réponse talmudique, mais c'est une réponse qui vient de la Kabbale, mais bon, peu importe. Le Aleph est le symbole du Saint béni soit-il. Parce que le Aleph, c'est l'unique, c'est le un, c'est l'initial, et de là part le tout. Quand je sors de la vérité, la première lettre, quand je sors de l'émet,
donc,
je reste avec des faits, mais sans le
aleph.
Donc ce qui me reste, c'est met, c'est-à-dire mort. Prenez par exemple un ouvrage d'études en chimie, par exemple.
C'est
exactement la question, la vérité. La vérité doit être liée depuis le haut jusqu'au bas, depuis l'extrémité supérieure jusqu'à l'extrémité inférieure. Il doit y avoir un lien. C'est une suite d'informations. J'ai dit une fois quelque chose de terrible sur la chimie, bien que j'ai étudié la chimie à la fac. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à une collection de timbres, ça.
Est-ce que on peut reprendre cette image, cette différence entre la vérité qui devient la mort quand la lettre Aleph est effacée du front du golem et que le golem devient un être maléfique ? Donc, est-ce qu'on peut reconduire cette image à partir d'un couple qui a été pensé par Spinoza, entre d'un côté la nature naturante, l'univers en tant qu'il est producteur, et la nature naturée, c'est-à-dire l'univers, finalement, comme la somme de ses produits.
Quand le monde n'est que des points, n'est que des preuves, des faits, eh bien, c'est un monde mort. Parce que c'est un sujet complètement différent, qui n'est pas lié au problème ni du Talmud, ni même du judaïsme. Il est lié à un point extrêmement important. La première question qui explique ce qu'est, qui définit ce qu'est la religion, c'est que je te demande quel est le but.
Ce
n'est pas où est le début, mais vers quoi cela mène. Un monde qui n'a pas de but, c'est un monde athée, absolu. Quelqu'un un jour l'a défini, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe qui n'a pas d'issue.
Oh.
Merci Adin Steinsaltz. On vous retrouve demain pour la suite de cette conversation sur le Talmud, ou sur autre chose d'ailleurs, tant il est difficile avec un esprit comme le vôtre de maintenir la curiosité sur un seul registre. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance avec à la technique Dimitris Capolan et Michel Mestre, à la réalisation François Connac, à la traduction Michel Zlotowski, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, dont le travail préparatoire à ces émissions fut comme toujours décisif. À demain 19h30 pour la suite de ces conversations. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve Avoinu sur France Culture.